Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
David Brocouet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison littéraire qui s'ouvre en cette rentrée avec la publication de 490 romans français et étrangers. Un nombre de sorties en baisse par rapport aux années précédentes, mais qui nous propose une belle diversité de textes, de styles et d'horizons. Et parmi les auteurs les plus attendus, notre invité aujourd'hui, l'écrivain qui a l'art de mettre du lien entre les continents, l'Afrique où il est né, l'Europe où il a étudié, l'Amérique du Nord où il travaille, du lien entre les langues, le français qu'il écrit, l'anglais qu'il traduit, du lien entre les littératures, la fiction, l'essai et la poésie qu'il édite comme directeur de collection, et enfin du lien entre la tradition et la modernité, la réalité et l'imaginaire, comme l'illustre son tout nouveau roman intitulé « Le commerce des allongés » aux éditions du Seuil, qui met en scène un garçon mort, mais qui revient parmi les vivants. Bonjour Alama Bankou.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez beaucoup à la mort ?
Non, je ne pense pas que la mort soit ma préoccupation, mais il arrive qu'elle soit présente là. Si je la pense, je la pense souvent sous la forme humoristique. Il faut démystifier la mort et ne pas penser que c'est la fin des choses.
C'est vrai qu'avec ce nouveau roman, on entre de plein pied dans cette grande question existentielle. Mmh. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Mmh. Vous y croyez, vous ?
Je sens qu'il y a quelque chose, parce que rien ne nous prouve qu'il n'y a rien là-bas. Et donc, à défaut de la certitude qu'il existe quelque chose, il faut faire comme si ça existait.
Alors, comment est né ce roman, Le commerce des allongés ?
Alors, Le commerce des allongés est peut-être le fruit de mes voyages en Afrique. J'étais déjà allé au Congo en 2010-2013. Et puis j'ai sillonné l'Afrique récemment du côté du Rwanda, du côté de Goma en République démocratique du Congo, mais aussi du côté du Kenya. Et donc, quand j'étais au Congo, j'avais lu dans la presse une sorte de fait divers dans lequel on disait que une personne, un jeune homme qui était mort, une fille qui était morte, revenait fréquenter les boîtes de nuit. Et donc, partant de là, je me suis dit que peut-être que les boîtes de nuit sont bourrées des gens qui ne sont pas forcément de notre monde réel, mais qui sont de l'autre côté de la réalité. Alors, j'ai tissé cette histoire de ce garçon qui, un jour, va dans une boîte de nuit, rencontre une fille, et cette fille est très belle. En le rencontrant, peut-être qu'il vient de changer le cours de son destin.
Voici donc Liwa Ekima Kingai. Est-ce que je prononce bien ?
Ouais, Lingala Liwa Ekima Kingai.
Voilà, dont le nom se traduit ironiquement par « La mort a eu peur de moi ». En l'occurrence, ça n'a pas été tout à fait le cas. Et ce jeune Liwa, qui est cuisinier au Congo-Brazzaville, a l'étonnement de se réveiller dans un cimetière. Le cimetière du Frère Lachaise, joli clin d'œil au Père Lachaise à Paris, évidemment. Et en effet, comme il va le comprendre rapidement, il est décédé, il a été enterré. Et pourtant, il a sans doute encore une mission à accomplir. Et le voici de retour parmi les vivants, mais aussi les morts qui errent dans la ville. Pointe-Noire, évidemment, votre ville natale, Alama Bankou. Mais est-ce que c'est un choix géographique aussi parce que là-bas, il y a des croyances, des rites funéraires particuliers dans cette partie du pays, voire dans l'ethnie des Bambé à laquelle il appartient?
Je pense que c'était un choix aussi lié à mon propre parcours, à ma propre existence. En général, l'écrivain décrit le mieux les choses qui sont de sa culture, les choses qu'il a vécues, et puis la conception, les conceptions que lui ont inculquées peut-être ses ancêtres, les gens de son ethnie, comme on dit. Et donc, pour moi, il s'agissait aussi d'ouvrir la marmite des traditions africaines. C'est pour ça que je pense que c'est le livre qui se rapproche de Mémoire de Porc-Épic à l'époque quand j'avais fait la fable africaine dans laquelle je faisais parler les animaux. Et ici, je fais parler les morts, en quelque sorte, et les vivants aussi.
Mais est-ce qu'il y a des rites particuliers à Pointe-Noire ?
Oui, il y a des rites particuliers. J'en ai trouvé à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, lorsque quelqu'un était mort, on était obligé de promener le cercueil dans les rues, dans les quartiers, comme pour rechercher celui qui lui a fait du mal. On ne conçoit pas la mort comme étant quelque chose qui puisse arriver à quelqu'un de jeune. Quand on dit jeune en Afrique, c'est jusqu'à pratiquement 70 ans. Et donc, quand quelqu'un meurt, sans pour autant qu'on ait eu l'explication de sa mort, on dit toujours que quelqu'un l'a mangé, quelqu'un l'a ensorcelé. Et donc, il faut aller trouver cette personne. Et pour trouver cette personne, vous faites appel aux sorciers qui viennent là parler aux morts. Et tout d'un coup, le mort commence à danser dans le cercueil. Et le cercueil se met à sillonner le quartier jusqu'à aller échouer dans la maison de la personne qui lui aurait fait du mal.
Et vous, vous avez été témoin à la Mabankou de ces grandes scènes quand vous étiez jeune?
Quand j'avais à peu près 10 ans, oui, on était en train de manger dans notre parcelle et on a vu un cercueil passer porté par 4 personnes. Et moi, j'étais étonné. J'ai dit à ma mère, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, non, c'est un mort qui est en train d'aller rechercher celui qui lui a fait du mal. C'est pour ça que j'ai essayé de retracer cette sorte de procession ici, non pas pour aller rechercher qui a fait du mal, mais le mort qui part dans tous les quartiers pour dire au revoir à tous ceux qui l'ont connu avant d'aller reposer en paix dans son cimetière.
Le mort qui est drôlement bien habillé, hein. Il faut rappeler que Liwa c'est un sapeur
et qu'il
a un costume magnifique avec des couleurs vives, vertes, oranges, tout ce que vous aimez à la Mabankou.
Oui, j'ai voulu l'habiller comme j'aime dans la sape. C'est un sapeur qui est mort, très bien habillé. Il a une chemise mousquetaire, verte, fluorescente. Il a un pantalon crêpe, la veste orange, les chaussures à haut talon, un peu comme celles que porte actuellement Kofi Olomide. Et que beaucoup disent, mais c'est les chaussures des femmes qu'il a portées. Non, il est habillé ainsi. Et on a une certaine vision esthétique des années 70. Il est habillé tel quel à l'époque du disco, etc., où on portait des vestes de ce genre.
Et cette couleur, justement, elle va à l'encontre du noir qui normalement est associé au deuil.
Oui.
Et elle rend compte aussi de toute la joie, l'énergie, la vitalité, paradoxalement, qu'il y a dans votre roman Le commerce des allongés. Alors, on poursuit parce que dans cette nouvelle existence, Liwa fait la connaissance des autres locataires du cimetière. Il y a donc un ancien directeur des ressources humaines, une mère dont les enfants jumeaux ont été empoisonnés, un chanteur célèbre dont nous reparlerons dans un instant, il y a l'ancien gardien du cimetière et puis la femme corbeau qui a été brûlée vive. Ça, c'est également un sujet dont on va reparler. En d'autres termes, vous recomposez ici une société en microcosme et on se dit finalement que le monde des morts ressemble assez au monde des vivants. Les personnes se parlent, mangent, boivent, font la grève, sont victimes d'injustices et que même d'ailleurs, après le trépas, il y a d'un côté les cimetières pour les riches et de l'autre les cimetières pour les pauvres. C'est aussi un grand roman social ici à la Mabankou.
Je pense que l'aspect social était lié aussi à ce qui se passe actuellement dans le continent africain. On se rend compte que les inégalités se poursuivent jusque dans la mort. On pensait que la vie était le théâtre des inégalités sociales, mais dans la mort aussi. Les gens préfèrent parfois montrer leur richesse au moment de la mort. Quel type de funérailles tu vas avoir? Comment on va te pleurer? Combien de personnes seront là? Dans quel cimetière tu seras? C'est pour ça que dans le roman, j'ai créé deux espaces géographiques très antagonistes. Les cimetières des pauvres, qui s'appellent le frère Lachaise, et de l'autre côté, les cimetières des riches. Les gens prennent de crédit pour aller être enterré dans les cimetières de riches, tandis que chez les pauvres, ben, on vous met n'importe comment. Vous voyez même que les épitaphes ont des fautes d'orthographe, les tombes ne sont pas si claires, etc., etc. Mon personnage a été mis du côté du cimetière des pauvres. Mais cependant, quand il va revenir dans la cité, peut-être que c'est pour s'attaquer à ceux qui sont censés posséder la richesse. Donc ces inégalités, je voulais qu'elles soient perceptibles là. Et dans ce sens, quand j'écrivais ce roman, je n'avais pas au départ l'impression que j'embrassais vraiment une totalité sociale, que j'étais en train pratiquement de réécrire à ma manière l'histoire des sociétés africaines à travers la mort, mais aussi à travers la vie.
Et à travers tous ces personnages secondaires qui sont vraiment magnifiques et qui portent chacun en eux, en elles, une histoire très forte. Vous illustrez à la main Bankou une des règles que vous donnez aux jeunes écrivains, toujours donner de l'importance aux personnages secondaires.
Et je pense que ce roman, par rapport à tout ce que j'ai écrit maintenant, ce roman tient aux personnages secondaires, c'est-à-dire que ceux qui vont entourer ce jeune homme qui est mort. Et c'est peut-être ça aussi le secret du roman, c'est de ne pas négliger les personnages secondaires. Même dans la vie, quand vous arrivez dans un hôtel, respectez la femme de ménage comme vous respectez le directeur de cet hôtel. Eh bien, dans ce roman, c'est la même chose. Les personnages les plus ridicules sont importants. Liwa lui-même, c'est un cuisinier dans un hôtel Victory Palace. Il est commandé par un chef français. Et bien, de l'autre côté, vous avez ces gens qui, dans la société, quand ils ont un poste très important, ils écrasent les petites gens derrière. Ils exposent, en quelque sorte, leur richesse. L'un des personnages du roman à l'intérieur, c'est quand même quelqu'un qui est bourgeois et qui a sa propre sorcière à la maison. Et qui a presque une certaine dimension de gourou dans la société.
Donc la littérature est démocratique, elle donne la parole à tout le monde.
La littérature est démocratique, non seulement elle donne la parole à tout le monde, mais elle force ceux qui ne veulent pas l'apprendre de l'apprendre pour leur propre intérêt.
J'évoquais tout à l'heure à Lama Bankou ce chanteur célèbre que Liwa rencontre au cimetière. Il s'appelle Luli Madera. Lui, il sort de votre imagination. N'est-ce pas ?
Il faut se méfier des écrivains. Ils peuvent partir de la réalité pour tisser la fiction.
En revanche, il y a plein de références musicales réelles dans le roman.
Oui.
Ça va de la chanson Indépendance Cha-Cha de Wando Colossoy, à Liberté de Franco Luambo Makiadi, en passant par, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien le prononcer, Une Tessa d'Alliance. Pour un titre qui s'intitule Bina Nanagi Na Respect.
Bina Nanga Na Respect, danse avec moi, avec une certaine élégance, avec un certain respect.
Dit à la Mabankou, en dansant d'ailleurs devant le micro, c'est dommage qu'on ne vous voit pas. Il y a même Nana Mouskouri d'ailleurs, pour Au cœur de septembre. Je ne connaissais pas cette chanson.
Ben oui, parce qu'à l'époque, nous étions bénés, donc toutes ces chansons qui sont là, que ce soit du Grand Calais, que ce soit de Franco. À l'époque, les orchestres, quand ils étaient en train de faire des répétitions, eh ben, avant de commencer les concerts, ils chauffaient un peu la guitare et les voix avec les chansons françaises. Donc, on faisait du Nana Mouskouri, on faisait du Carlos, on faisait du Claude François, du Sylvie Vartan ou du Dutron. Et après, commençait la vraie musique, disent les Congolais, c'est-à-dire là, passer la guitare. Donc, j'étais très heureux d'en chasser, de mettre à l'intérieur de ce récit ces pages de musique africaine, la constitution même d'un orchestre dans lequel le chef d'orchestre, c'est un bossu. Et les gens croient que s'il est bossu, c'est parce que si sa voix est belle, c'est parce qu'elle sort de sa bosse. Et cette bosse, c'est une sorte d'élément qu'il a reçu grâce à une certaine sorcellerie.
Quelque chose en effet d'étrange. Bref, quel titre aimeriez-vous écouter maintenant à Lama Bankou ?
Le titre que j'aimerais écouter maintenant, Bina Nanga Na Respect peut-être.
Alors c'est parti.
De Tessa d'Alias.
Citoyen Boniko, Bina Nanga Na Respect, Nali Mwasi Amoto. Lendo ya kobota mai na yakina ngai pona bina rogo mobali ya tinga minga yiye alula kinga pona kolata e atuna tena nya sala kama so pona zuwa kaboyenga mavata e na saka mena timo andambo amosolo Na boy na ngai basale la ngai fiero po ba me li singa hiye Monzele na zali kontu tampon na pesa nzoto kilo Oya kolu langa kote la mi son pamba bina na ngai mal Mwana nangai na respect. Sali kitoko ya kobota mai na yakina ngai pona bina gogo mobali ya dinga minga hiye alula kinga pona kolata e aduna tena nyasala kama sopona zwa kaboyenga lisaka e.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Alain Mabankou, notre invité pour son nouveau roman intitulé « Le commerce des allongés » aux éditions du Seuil. Une fable, on l'a dit en première partie de l'émission, qui met en scène Liwa, ce jeune garçon décédé brutalement. On saura comment à la fin du récit. Et qui, après ses funérailles et son enterrement, sort de son cercueil pour accomplir sur Terre une dernière mission, mais aussi sans doute pour revoir sa grand-mère, cette femme tant aimée qui l'a élevée après la mort de sa mère décédée en lui donnant naissance, une femme battante comme souvent dans vos romans Alain Mabankou, une femme qui prodigue de l'amour, qui fait jouer la solidarité, surtout dans un monde où nombre d'entre elles sont souvent victimes du pouvoir des hommes, comme par exemple, on l'a cité tout à l'heure, cette femme brûlée vive que vous évoquez, où il y a encore ces adolescentes sexuellement abusée. La femme, les femmes sont au cœur de votre roman, Alain Mabankou, de votre œuvre.
Oui, je pense que paradoxalement, et peut-être ça, je l'ai vu par la suite. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de portraits de femmes que j'avais faits à l'intérieur de ce roman. Quand on voit la grand-mère qui est là, la présence, la mère qui a disparu de ce personnage, mais surtout cette solidarité des femmes qui vendent dans les marchés en Afrique. Ici, dans le grand marché de Pointe-Noire, vous avez cette femme qui s'appelle Bouanga Sabine. Elle est une sorte de ce que peut-être Cheikh Hamidou Kan appellerait une sorte de grande royale. Donc elle est au milieu et après il y a toutes les femmes qui tournent autour. Ces femmes ont créé leur solidarité en se faisant des cotisations pour s'aider dans le malheur et dans le bonheur. Quand vous voulez acheter une maison, puisque les banques vous font de la fine bouche, eh ben notre solidarité fera que chaque femme, se cotisant avec les autres, eh ben ils vont aider leurs collègues, leurs amis. Mais en même temps, les femmes sont aussi victimes des abus en Afrique. On n'en parle pas beaucoup. Regardez la condition, par exemple, des albinos, que je traite aussi dans le livre. La condition des albinos, quand ça croise les croyances religieuses ou animistes ou traditionnalistes, ça donne le grand procès qui se trouve dans le livre où un gourou est presque en train de s'acharner sur une espèce de population et ses filles, ses enfants sont aujourd'hui peut-être les prisonniers des croyances populaires.
C'est ma prochaine question, mais je reste encore sur la question des femmes avec effectivement ce paradoxe presque à la fois un matriarcat réel dans les faits, dans la société et en même temps les plus jeunes, les plus vulnérables qui sont la proie de prédateurs donc.
Oui, c'est-à-dire les plus vulnérables vont être la proie des prédateurs alors même qu'on a souvent oublié que la femme est le pilier des sociétés africaines. On nous présente en Occident que la femme est toujours derrière quelque part, mais la femme, c'est elle qui a une relation directe avec les enfants. C'est elle qui a une relation directe avec la famille, pendant que le plus souvent, beaucoup de pères vont discuter avec leurs amis à gauche et à droite. Le poète, quand il disait que la femme est l'avenir de l'homme, avait quelque part raison. Et moi, je voulais voir ces femmes du côté de la vulnérabilité. Si vous prenez la femme que j'ai décrite sous le nom de la femme corbeau, c'est une allusion que j'ai faite à la Jeanne d'Arc congolaise qu'on appelait Kimpavita, qui a été brûlée à l'époque parce qu'elle aurait commis une hérésie. C'est-à-dire que ses convictions étaient là parce qu'elle voulait peut-être montrer aux populations locales les croyances qui venaient de nous autres, les Africains. Eh bien, elle est morte, elle a été brûlée à cause de ses croyances. C'est une héroïne qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours fasciné. et dont je regrette le fait que beaucoup d'écrivains ne se soient pas appesantis sur son sort. Peut-être que pour moi, c'est un début pour un jour voir cette femme qui a été brûlée. Et même si je lui ai consacré ne fût-ce que ce chapitre sous le nom de la femme corbeau, mais aussi la leçon générale du roman est portée par cette femme qui dit que si vous allez dans le pays des morts, si vous êtes mort, ne revenez vers les vivants que pour installer quelque chose de glorieux et de magnifique. Mmh. Un mort qui revient dans le monde des vivants pour semer la dislocation n'est pas vraiment respectueux de cette sorte de bonté qu'on lui aura donnée.
C'est cette sagesse aussi que l'on évoquera dans un instant avec vous, Alama Bankou. Et donc cet autre thème que vous développez en creux, parce que ce n'est pas du tout une charge satirique, mais un constat amer, le milieu politique corrompu, et plus grave encore, ces politiciens qui sont aux mains donc des féticheurs, qui s'y apparaissent sous leurs pires facettes. Quel est votre point de vue sur ces guérisseurs, en tout cas sur ces imposteurs, parce que certains d'entre eux doivent être de bons guérisseurs. Mais là, ici, on ne voit vraiment que des êtres malfaisants.
Oui, la plupart de... Comme dans le commerce des allongés, la plupart des hommes politiques ou des femmes politiques sont souvent entourés des sorciers et des sorcières qui ne sont pas toujours parés de bonnes intentions. En l'occurrence, moi j'ai toujours imaginé ou j'ai toujours estimé que ces sorciers sont ceux qui à la fois ont porté l'Afrique, continuent à porter l'Afrique, mais qui sont aussi en train de désagréger le destin de l'Afrique en proposant parfois des choses qui relèvent plus de leur égoïsme que de la volonté générale. Et moi, je ne condamnerai pas ces pratiques parce qu'il y a des vrais sorciers, parce qu'il y a des vrais guérisseurs, des gens qui équilibrent nos sociétés. Et de l'autre côté, il y a forcément les escrocs.
Parce qu'il y a eu une dérive, vous pensez, mercantile, et que certains se sont proclamés guérisseurs pour de l'argent, tout simplement.
Bien sûr, quand dans la société, vous sentez que vous êtes déplacé dans la ligne directe de trouver du travail, d'aller à l'école, etc., vous n'avez rien fait dans ce sens. Tous les moyens sont bons désormais pour avoir une fonction dans la société et être directement quelqu'un qui va se proclamer comme celui qui guérit le sida, celui qui guérit, je sais pas, le paludisme, etc., etc. Ceux qui sont dans le désespoir écouteront n'importe quelle voix qui vient parler avec assurance. Or, les escrocs ont toujours tendance à très bien imiter la voix de celui qui est assuré de son talent.
Avec des conséquences très graves, par exemple des crimes atroces, d'enfants albinos, comme vous le disiez tout à l'heure, voire le sacrifice de ses propres enfants en échange d'un pouvoir total. Ça existe encore, ça, Alama Bankou ?
Oui, ça existe encore, parce que quand j'écrivais ce roman sur ce passage, sur ce qu'on appelle les crimes sacrificiels, la documentation ou les livres que je lisais, c'était encore des crimes qui datent de ces années 2000. Ce n'est pas des choses qui relèvent de l'époque ancienne. Il y a toujours des sociétés qui continuent à croire que sacrifier ou faire un meurtre ou assassiner un albinos pour faire des fétiches à gauche et à droite lui apporterait du pouvoir.
Mais même sa propre fille.
Mais bien sûr, c'est pour ça que le personnage qui est là et qui s'appelle Papa Bonheur, Papa Bonheur, c'est quelqu'un qui pensait qu'il serait là pour apporter le bonheur à l'ensemble de la population. Mais seulement quand la nuit tombait, ces mêmes populations qui lui faisaient confiance ignoraient qu'il était dans des pratiques un peu kabbalistiques qui ont fini par dérégler la société. Pour moi, c'était aussi une façon de porter ma pierre à ce combat de lutte contre les atrocités qu'on fait aux albinos en général, mais en particulier aux atrocités qu'on fait aux adolescents, puisqu'il y a aussi les jumeaux à l'intérieur qui ont été sacrifiés, il y a d'autres personnes. Dès que vous êtes différent, vous êtes la cible des crimes sacrificiels.
Donc il y a une tension entre le respect des traditions et la modernité et la raison.
La tension est toujours là, permanente. Entre la transition des traditions et de ce qu'on appelle la modernité, on se rend parfois compte que la modernité nous a rapporté beaucoup de barbarie qui étonnerait n'importe quel traditionaliste. parce que je suis persuadé que les sociétés traditionnelles avaient le sens du respect de la vie et de cette diversité. Ce sont les gymnastiques intellectuelles de la modernité qui ont fait qu'on puisse s'acharner sur ceux qui ne nous ressemblaient pas.
Et vous, vous vous situez où, Alain Mabankou, entre cette tradition et cette modernité? Vous qui êtes à la fois issu de cette culture néo-congo et qui vivez beaucoup en dehors du pays.
Moi, je suis à l'intersection, ce qui explique un peu le parcours de ce que j'ai publié maintenant. Je peux à la fois écrire des livres urbains comme les Black Bazar et revenir dans les livres qui parlent de l'Afrique ancestrale ancienne comme dans Mémoire de Porc-Épic et aujourd'hui dans Le Commerce des Allongés. Je n'ai jamais fait la séparation parce que la modernité, la prétendue modernité et les traditions, eh bien, ce sont les faces d'une même pièce. Je ne peux pas échanger cela. Je suis à la fois congolais, africain, mais en même temps, quand vous me retournez, je suis aussi un citoyen du monde qui apporte aux autres ma part de congolais qui est restée là.
Fresque sociale, fresque politique, fresque culturelle. C'est vrai que Le Commerce des Allongés est un roman universel, puisque la mort nous concerne tous, nous attend tous. Est-ce que, comme Sénèque, vous écrivez sur la mort à Alain Mabankou pour vous y préparer?
Non, parce que ce n'est pas un livre qui est écrit sous le sens du regret. Ce n'est pas un livre qui est écrit sous le sens de l'oraison funèbre. C'est un livre dans lequel vous allez même rire des morts, parce que l'exemple que j'ai donné au début, il y a un mort qui, dans le cimetière, il va corriger les fautes d'orthographe. Il y a des discours du conseiller des ministres à l'intérieur. Donc, je pense que je voulais rire de la mort. C'est surtout ça. Parce que chez nous, au Congo, le plus souvent, quand on parle de la mort, en tout cas du côté de la Bouenza, on parle toujours de la mort d'une façon humoristique. Il faut banaliser la mort pour que lorsqu'on arrivera de l'autre côté, ça soit simplement un changement de lieu.
Avec aussi cette phrase que vous écrivez à Alain Mabankou, « Notre vie ne tient qu'à un fil que nous avons nous-mêmes cassé », c'est donc en creux, plutôt l'éloge de la vie qu'il faut protéger, qu'il faut renforcer, qu'il faut vivre là, maintenant, tout de suite.
C'est l'éloge de la vie, parce que sinon, pourquoi quelqu'un est mort et il s'empresserait, il est content parce qu'il est ressuscité, parce qu'il veut retourner du côté de la vie. Et on se rend compte aussi que ceux qui sont morts ont reproduit les automatismes de la vie réelle. Dans le cimetière des riches, par exemple, les fantômes sont là, ils commandent les vins en France, ils mangent le camembert, ils discutent de politique. Il y a des gens qui avaient, dans la vie réelle, des problèmes de jalousie avec la femme de l'autre. Les deux sont morts, mais ils continuent à se chamailler derrière, là-bas, sur la mort. Donc, ce sont les autres morts qui séparent les combats qu'ils avaient eus dans la vie réelle. Donc, dans les deux espaces, l'espace de la réalité, il y a des dérèglements, mais chez les morts aussi, pensez pas que les gens reposent en paix là-bas. Il y a des choses qui se règlent là-bas, on n'est pas au courant. Et c'est ces choses-là que je voulais aller voir à ma manière. Sans ça, la mort n'est rien qu'une autre facette de l'existence.
Et donc, célébrer la vie aussi.
Célébrons la vie, la mort n'est que la vie, mais de l'autre côté.
Merci beaucoup, Alain Mabankou. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, très gai, très vif, très emballé. Le Commerce des Allongés, qui apparaît aux éditions du Seuil.
Merci.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.